Est-ce que tu te trouves à chier des fois? T'inquiète, t'es pas spécialement nul, t'es juste, comme tout le monde, médiocre. Bienvenue dans Soif de Sens, des histoires d'humains qui changent le monde. Chaque semaine, je reçois un invité écolo, féministe ou solidaire pour t'aider à incarner le changement. Et aujourd'hui, on accueille à nouveau l'humoriste Guillaume Meurice pour parler encore de l'importance d'être médiocre. Salut Guigui.
Ça va Pierrot?
Et il m'appelle Pierrot, alors moi je...
Les gens vont en avoir marre de moi. Faut oui, que t'invites d'autres personnes.
C'est sûr.
Ça peut pas être tout le temps moi, Pierrot.
Alors je te présente en 10 secondes, t'es humoriste chroniqueur. La semaine dernière on a fait un premier épisode sur ton livre « Peut-on aimer les animaux et les manger ?» Il y a des gens qui fantasment de devenir auteur toute leur vie, t'en as d'autres qui écrivent des livres de 40 pages. Et Guillaume est médiocre, on a besoin de faire deux épisodes pour qu'il ait le temps de partager toutes ses idées. Donc aujourd'hui, cette deuxième partie, on va parler d'un autre livre que t'as écrit, « Petit éloge de la médiocrité ». Je te tacle, mais en vrai... Depuis première interview il y a 2-3 ans, la blague de trop, t'as sorti genre 4 livres, écrit 2 spectacles, lancé une nouvelle émission le dimanche soir sur France Inter, et tes blagues sont tellement drôles que Bolloré a censuré ton livre. Et... Donc ma question est simple, avec tout ce palmarès et cette productivité, êtes-vous sûr d'être réellement médiocre, monsieur Meurice?
C'est justement parce que je sais que je suis médiocre que je suis, comme tu dis, assez productif. Parce que y a des gens qui attendent d'avoir le livre parfait ou le podcast parfait, l'idée incroyable que personne n'a eue. Et il y a des gens qui attendent ça toute leur vie et qui du coup ne font rien. Moi, je sais que de toute façon, quelle que soit la production humaine qu'on sort, elle sera forcément pas parfaite. Donc, j'ai pas tellement de mal à écrire parce que j'aime bien écrire en tout et à me dire que de toute façon, dans 2 ans, j'aurai certainement écrit d'une autre manière. Et que du coup, dans 2 ans, je referai un autre livre.
Dans le livre, tu rappelles plein d'exemples à quel point les politiques, par exemple, sont médiocres. Voilà, Copé qui estime un pain au chocolat ou une chocolatine à 10-15 centimes, t'es là, ok. Et surtout...
C'est normal qu'ils soient médiocres, puisqu'on l'est tous. Il n'y a pas de raison que ces gens-là... C'est ça la trahison du système démocratique dans lequel on vit. C'est que ces gens-là s'estiment plus à même de décider pour d'autres personnes. Parce qu'ils seraient potentiellement, je sais pas, supérieurs, parce qu'ils ont fait l'ENA, etc. Mais quelle garantie ça nous offre quant à leur connaissance du quotidien? Aucune, et même au contraire, j'ai l'impression que ça les place en orbite, quoi, qu'ils sont plus avec nous. Donc c'est pas tellement contre les gens, c'est pas contre Jean-François Copé, c'est contre la structure qui permet à Jean-François Copé ou à Emmanuel Macron d'être président de la République. Ça sert à rien de gueuler Macron démission si c'est pour mettre Valérie Pécresse à la place. Ça réglera pas le problème. Le problème, c'est la structure qui fait que une personne décide, en l'occurrence pour 67 millions.
Oui, on nous raconte l'histoire que c'est au mérite qu'on arrive tout en haut de l'échelle. Ouais. Donc c'est parce qu'on gobe cette histoire qui est en partie vraie. Voilà, enfin, réussir l'ENA, c'est quand même un truc hardcore, quoi. Mais effectivement, c'est pas les mêmes compétences qu'il faut pour réussir à l'ENA que pour gouverner un pays et être proche des gens et comprendre leurs problèmes et apporter des
solutions. Surtout, moi, je préfère quelqu'un qui sait faire pousser des patates parce que ça va être plus utile.
En tout cas, tu réagis bien parce que tu rappelles dans le livre que, et moi, je suis assez d'accord avec cette idée, qu'on a quand même beaucoup moins de pouvoir que ce qu'on se raconte, quoi. On est vachement déterminé par notre éducation, l'environnement, là où t'es né, les influences de, je sais pas, la culture, de l'histoire, etc. Et on fait genre, on a un pouvoir de ouf sur nos vies, mais en vrai, voilà, on fait vraiment ce qu'on peut au milieu d'une énorme tempête, et voilà, on fait comme on peut avec ce qu'on est, quoi.
Mais oui, qu'est-ce que ça pose la question de qu'est-ce que le libre arbitre? Mais le système actuel est basé sur ce mensonge, est basé sur quand on veut, on peut. Donc, si vous êtes pour la merde, quelque part, c'est de votre faute, c'est votre responsabilité. Levez-vous le matin, traversez la rue, toutes ces conneries qu'on entend à longueur de journée sont basés sur ce mensonge initial. Et il est assez efficace, ce mensonge, parce que nous, même en tant qu'individus, on aime bien se dire qu'on est à la barre de notre propre bateau et qu'on peut aller où on veut.
Et c'est pas complètement faux.
Des tempêtes. C'est quelque chose qui est assez efficace et assez gratifiant pour nous. Alors que dès qu'on fait un tout petit peu de sociologie, genre un an, ou qu'on ouvre un livre de sociologie, on se rend bien compte qu'il y a des forces qui nous traversent et dont on n'est absolument pas responsable. Donc la seule solution que je vois, c'est de s'organiser collectivement pour prendre des
décisions. On va pas trop vite en besogne, il y a des questions après. Là que tu fais des réponses courtes, après on va faire des épisodes de podcast de 15 minutes. Est-ce que tu, pour reprendre au début, tu peux nous raconter l'anecdote de départ de ce livre avec le mail d'un auditeur,
oui.
Ce cher Philippe?
Oui, je suis parti d'un mail. Bon, je reçois pas mal de mails. Forcément, quand tu prends la parole en public sur une chaîne nationale,
sur France Inter,
tu reçois du courrier. Et j'aime bien répondre au courrier des gens qui m'aiment pas, principalement. Parce que ça m'intéresse d'avoir les arguments. Alors, des fois, c'est assez décevant, mais des fois, ça peut être intéressant. Et le premier chapitre du livre part d'un mail que j'ai reçu d'un mec qui s'appelle Philippe et qui me disait que j'étais vraiment nul, quoi. Nul. Pire que ça, il me met « vous êtes médiocre ». Donc, bon, je dis « chouette, je vais pouvoir répondre », etc. Et puis, en réfléchissant à quoi répondre, je me dis « mais en fait, oui, il a raison, je suis médiocre, il n'y a même pas tellement d'autres possibilités d'être dans la vie ». Je pense qu'il l'est aussi, ce bon vieux Philippe. Qu'on fait tous ce qu'on peut et je suis assez limité comme tout le monde. Alors ça m'a questionné pas mal. Je sais plus exactement ce que je lui ai répondu, mais j'ai dû lui répondre un truc du style « Bah oui, je suis médiocre, bien vu Philippe, ah, je suis démasqué. Et vous, qu'est-ce que, voilà, pour, expliquez-moi pourquoi vous n'êtes pas médiocre. » Et je pense que j'ai jamais eu de réponse. Et puis après, quand il a été question, donc là, c'est la maison d'édition, les Pérégrines qui m'ont contacté. C'est une collection qui s'appelle Petit Éloge 2. Je me suis dit que Petit Éloge de la médiocrité, il y avait matière à développer une vingtaine de chapitres autour de la thématique, ouais.
Parce qu'en vrai, moi, je m'attendais pas à un truc aussi engagé. T'en avais gros sur la patate. Et une vraie critique transversale de la société. Et voilà, tout le monde y passe, de Zizou au tennisman français, à Copé, par exemple. Ouais. Avec cette idée, ouais, que... C'est vrai qu'être médiocre dans notre société, c'est forcément connoté péjorativement, par exemple surtout au travail, où on attend de toi que tu te dépasses, alors que clairement, tu travailles pour enrichir, si c'est pas ton boss, des actionnaires, et que le travail, pour 95% des gens, c'est une corvée, quoi.
Bah oui.
Et c'est incroyable comment le système arrive à nous faire culpabiliser si on se donne pas corps et âme comme un acharné pour gagner 3 cacahuètes, et encore plus si t'es au chômage, t'es une sous-merde, quoi.
Ouais. Parce que il est organisé verticalement. Donc, on te fait croire que si tu te bouges le cul, tu vas pouvoir grimper. C'est l'ascenseur social. Toutes ces métaphores sont assez efficaces parce qu'on les entend tout le temps, en plus. Donc, elles te rentrent dans la tête et au bout d'un moment, tu te dis, bon, bah, a priori, les règles du jeu sont celles-là. On te dit en permanence, on peut pas les changer. C'est comme ça. There is no alternative de Thatcher, la fin de l'histoire et tout ce genre de conneries, quoi. Alors que c'est une structure, et une structure, on peut la changer, on peut toujours l'améliorer, encore heureux. Si on était bloqué dans cette structure-là, franchement, j'aurais vraiment... Je ferais même pas de bouquin.
Mais le but de cette structure, c'est de se défendre. Et donc, elle va toujours croire qu'il n'y a pas d'alternative qui est possible parce que c'est dans son intérêt de...
Et nous, notre objectif est de bien montrer à tout le monde que c'est une structure qui est en plus basée sur des mensonges. Je suis plutôt optimiste parce que je pense que de plus en plus de personnes s'en rendent compte sans forcément peut-être le... théoriser ou le verbaliser, on va dire, mais les gilets jaunes, c'est un peu ça. C'est au bout d'un moment... Parce que Macron, il a quand même ajouté le mépris à la violence sociale. C'est-à-dire qu'en plus, il écrasait les gens sous son talon en les insultant. Alors qu'avant, la droite faisait passer à Chirac, tu vois, il était sympa. Il écrasait les gens, mais il faisait « Allez, viens boire une bière. » Bon, bah, tout le monde disait « Bon, il est quand même sympa, Chirac. » Tu vois, il y a le côté Édouard Philippe. Là, j'ai fait une chronique au Havre sur Édouard Philippe. Édouard Philippe, personnalité politique préférée des Français. Absolument personne ne sait pourquoi. C'est la même soupe néolibérale, c'est la même chose. Les forts qui gagnent parce qu'ils ont raison et les faibles parce qu'ils se bougent pas le cul. C'est exactement le même truc, mais sympa.
Puis t'as de l'empathie.
C'est vraiment sympa.
Il a perdu ses cheveux, ils ont changé de couleur, je sais plus. Enfin.
Ouais, il a une maladie. Ouais. C'est assez fascinant à quel point Macron, il a même pas l'intelligence humaine, quoi, empathique. Juste toi sympa, je pense que tu vas pouvoir continuer ta destruction des services publics, etc., etc., si t'es plus sympa. Mais bon, je veux pas donner de conseils à Macron non plus, pas exagérer.
T'abordes aussi un sujet hyper intéressant qui est le bénévolat, notamment, sur lequel y a quand même énormément de, soit de trucs cool, soit carrément de services de premier secours, de soupe populaire, de je sais pas quoi, enfin de j'en sais rien, de pompiers bénévoles, etc. Qui sont ultra utiles au pays, qui sont pas du tout comptabilisés dans le PIB.
Ils sont indispensables. Sinon, il n'y a pas de pays. Le pays tient sur des gens qui travaillent sans être payés.
Et tu prends l'exemple de quelqu'un qui est au chômage, on va se dire « ouais, c'est une sous-merde », alors qu'en fait, t'en sais rien s'il passe son temps à s'occuper de sa tante dépressive ou il a son voisin à retaper son logement ou quoi.
Exactement. Donc, je suis pour une grève des bénévoles. Qu'on voit ce que ça donne. Si pendant un mois, tous les gens qui bossent comme ça dans les assos, etc., sans être payés, s'arrête, voir combien de temps met le pays à craquer. Je pense 15
dans
jours.
Ouais. C'est un vrai truc dans l'ESS en général, de l'État qui délègue des fonctions qui avant étaient à lui, d'éducation, de santé, de social, etc., aux associations en leur donnant 3 cacahuètes. Ouais. Mais en fait, à la base, c'était pas ta mission à toi.
Moi, j'ai vu Manuel Valls inaugurer une campagne des Restos du Cœur. 2015-2016, je pense.
Ouais.
Manuel Valls, qui était Premier ministre, et il venait inaugurer une campagne des Restos du Cœur. J'avais dit un truc genre, c'est comme si un moustique venait inaugurer un centre anti-palu. c'est vraiment exactement ça, quoi. Et je lui ai demandé pourquoi on trouve des milliards pour sauver les banques et pas pour sauver les pauvres. Il avait dit, très bonne question, il s'était cassé. Il n'a jamais répondu à cette question.
Pourtant, il y a énormément d'avantages à être médiocre, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Le premier, c'est l'humilité, dont on a clairement besoin. Si on n'avait pas, par exemple, un ego démesuré à faire la course à qui a le plus gros zizi en allant sur Mars, par exemple, peut-être qu'on prendrait l'urgence climatique au sérieux et qu'on arrêterait de croire qu'on est au-dessus des lois de la thermodynamique. Et tu rappelles à juste titre que l'humain a été une proie pendant des millénaires. Et en fait, c'est comme si on était le gamin harcelé dans la cour de récré qui devient harceleur. Et aujourd'hui, on pille la planète et on défonce toutes les espèces. Mais c'est incroyable comme on a pris la grosse tête, quoi. Ça changerait quoi si on était plus humble?
Je pense que ça changerait tout, mais c'est même pas plus humble, mais c'est plus lucide, je dirais, par rapport à ce qu'on est. C'est un manque de lucidité que de se dire qu'on est une espèce supérieure, qu'on s'est extrait de la nature. Le pire, c'est que ça a été pensé, hein, quand on parle de la philosophie des Lumières. On parle de Descartes, qui est un mec qui a dit, il faut se faire un maître et possesseur de la nature. On parle de gens qui ont opposé toujours la civilisation et cette fameuse nature qui serait sauvage, violente, et la civilisation apaiserait tout. Bon, on se rend un peu compte que quelques années après, la théorie a quand même assez mal vieilli.
Un peu d'interdépendance, quand même.
Ça a fait des dégâts. Ça a fait vraiment des dégâts dans l'inconscient, j'allais dire, humain, quoi. C'est-à-dire dans ce qui nous caractérise, dans ce qui nous forge. On apprend ça dès l'école que, voilà, la civilisation humaine, etc., l'histoire. Mais on nous replace que, malheureusement, très rarement dans un contexte biologique. En quoi on est une espèce parmi les autres espèces et en quoi on a surtout besoin, égoïstement. Hein. Vraiment, si on veut rester sur une base égoïste, c'est même pas être le gentil défenseur des animaux ou de la planète ou quoi que ce soit. C'est juste qu'on en a besoin pour survivre. Donc là, on commence à s'en rendre compte. C'est assez intéressant parce que y a pas mal, à l'époque, de lanceurs d'alerte. Il y a une vidéo de Haroun Taziev, donc, qui était un vulcanologue, dans un débat avec Cousteau. Alors, je sais plus de quand elle date, cette vidéo, où Haroun Taziev dit, faudra quand même faire gaffe parce que le CO2 relâché dans l'atmosphère, ça risque d'être un des gros problèmes des prochaines décennies. Et Cousteau se fout de sa gueule allègrement, disant n'importe quoi. Ne meurs pas!
Ouf. Désolé, c'est le CO2, là.
Ouais, trop de CO2. On est bien d'accord que c'est pas, couper l'eau quand on se brosse les dents ou pisser sous la douche qui fera changer quoi que ce soit. Même si c'est toujours bien de le faire. Mais, le fait d'avoir un seul critère de réussite et de performance qui est l'argent est un énorme problème. Et moi, j'imagine toujours, je le dis dans le bouquin, qu'on est une télé-réalité pour des extraterrestres qui nous regardent et qui doivent se dire « Qu'est-ce qu'ils sont débiles, c'est pas possible, quoi. » Tu vas mourir, Pierrot.
T'as dit quoi?
Tu vas mourir, Pierrot.
C'est possible. Mais du coup, si je meurs... Cette interview ne sortira jamais.
Ça sera la dernière interview. Ce sera très émouvant. On la diffusera sur l'enterrement.
Un autre avantage de la médiocrité, c'est que ça t'incite à penser collectif, parce que l'individualisme est une des raisons pour lesquelles le monde part en couille. Et que si tu veux éviter que le peuple se rebelle, décidément, ma voix est vraiment OK. Le mieux, c'est d'organiser une société où on est tous en compétition tout le temps, qui a plus de likes, qui a la plus belle voiture, qui a le plus gros salaire. Et t'écris, pendant que chacun essaie de s'en sortir en étant le moins médiocre possible, eux, ils s'enrichissent. Toi, tu défends qu'une des solutions pour imaginer un autre monde, c'est moins de héros et plus de collectifs. Tu peux nous en dire plus?
Oui, c'est intéressant. J'ai lu un livre de Nicolas Framont que je conseille à tout le monde qui s'appelle Parasite.
Ah bah oui.
Dans lequel
il a de sens.
Il est super ce mec-là. Et le livre est vraiment super aussi. Donc moi, j'ai essayé de faire un anti-livre de développement personnel et lui, il parle carrément de livre de développement collectif. Ça m'a beaucoup plu cette idée. Et c'est juste qu'on n'a pas le choix. On n'a pas le choix si on veut être tout à fait lucide sur nous-mêmes. et se considérer tel qu'on est, c'est-à-dire très limité dans notre perception du réel et dans notre capacité à prendre des décisions. On a besoin des autres, c'est-à-dire qu'on a besoin de confronter notre point de vue à celui des autres. Donc la seule manière qu'une société puisse avancer correctement et prendre des bonnes décisions, c'est de s'organiser collectivement. D'où l'idée de la convention citoyenne, que je trouve une excellente idée, et que voilà, je trouvais vraiment Macron était formidable d'avoir eu cette idée qui n'est pas de lui, mais bref. Sauf que après, il faut en faire quelque chose. Faut pas juste rassembler des gens tirés au hasard et leur demander leur avis. Faut appliquer leur avis. Sinon, ça ne sert à rien. Donc là, ce qui s'est passé, ça a servi à rien.
Bah, c'était le but depuis le début, quoi.
Ah, c'était le but depuis le début. Mais moi, ma théorie, c'est que Macron, il s'est fait un peu niquer par sa perception des gens. Je pense qu'il croyait vraiment qu'il n'allait rien en sortir et qu'il allait pouvoir lui s'en sortir en disant. Bah si, regardez, j'ai demandé aux gens, bah, ils veulent garder leur bagnole diesel, ils veulent continuer à bouffer de la viande matin, midi et soir, donc voilà, j'ai été démocrate, etc. Et je pense qu'il se fait niquer par son propre système, et il a prouvé par là même que c'était un excellent système de tirer au sort des gens, au hasard évidemment, et puis de les confronter aussi à des scientifiques, à des experts, et des experts du sujet. Voilà, tu laisses pas des gens juste dans une pièce à discuter, ça suffit pas.
Quand du coup, ils ont produit des mesures vraiment pertinentes, quoi.
Bah ouais, qui étaient des mesures nécessaires.
Alors qu'individuellement, ils sont médiocres, effectivement.
Voilà. Et surtout, c'est très démocratique, parce que tu peux vraiment dire c'est issu d'une discussion qu'il y a eu entre des gens tirés au sort.
Ouais.
Donc là, on peut parler vraiment de développement collectif. Mais, enfin, c'est pas évidemment pas moi qui ai inventé le concept ni rien, mais ça se fait déjà dans les assos. Il y a plein de gens qui disent la verticalité du pouvoir, c'est une exception hein, parmi les organisations humaines. Parce que les gens, au jour le jour, quand t'es dans une bande de potes et que tu dois choisir un film, c'est rare que t'aies une personne qui décide on va aller voir ça et qui l'impose aux autres, quoi. Enfin, ça se passe toujours comme ça. Sauf qu'on a décidé qu'on va artificialiser un truc en disant non, la structure démocratique, donc potentiellement la plus importante de notre société, quoi. Les prises de décision qui vont avoir un impact sur les gens, non, ça va être un gugus. Là, en plus, j'allais dire 3-4 gugus dans une pièce, mais là, aujourd'hui, c'est plus qu'un seul gugus, selon ses désirs et puis selon les influences qu'il reçoit aussi, quoi.
Quand t'es plus nombreux à l'échelle d'une société, c'est sûr que c'est plus simple pour prendre des décisions par rapport à ta discussion de groupe WhatsApp pour décider du film qui est interminable et qui est relou. Mais en termes de démocratie et de dérive potentielle.
Mais non, c'est plus simple pour la personne qui prend la décision, mais pour les autres, c'est l'inverse. C'est pas plus simple du tout, quoi. C'est plus simple pour une personne. Parce qu'elle va aller voir le film qu'elle aime bien. Donc ça paraît simple. Et encore, mais tu sais, si on veut vraiment pousser la réflexion, encore, je suis même pas sûr que ça soit bénéfique pour la personne qui est au pouvoir, parce que on peut pas tellement dire qu'ils sont sains de corps et d'esprit, ces gens-là. Je suis même pas sûr que Macron, il soit très heureux et très épanoui.
C'est ça.
C'est vrai, Macron, je pense pas qu'il soit un mec à ce point machiavélique et qui se lève un matin en disant « Ah, j'ai encore enlevé 5 euros aux pauvres sur le RSA. Bien fait pour leur gueule. » Je pense même pas que c'est ça, quoi. Donc, je pense que c'est vraiment du gagnant. Tout le monde aura à y gagner.
Ça va être dur de les convaincre qu'ils ont quelque chose à gagner.
Non, mais on va les forcer.
Oui. Et puis, historiquement, en fait, c'est toujours des collectifs qui ont renversé les choses. Même si on retient qu'un nom, tu te rappelles que de Armstrong qui a mis le pied sur la lune, mais bien sûr, pas tout seul, quoi. Enfin,
c'est même pas révolutionnaire, c'est ça qui est fou.
Mais c'est pas l'histoire qu'on se raconte.
Voilà.
On aime les héros individuels et tu t'en parles. Ça, du coup, ça ouvre aussi la porte.
Ce qu'on aime, c'est qu'on nous en refile toute la journée.
On aime bien ça.
Un film avec une histoire collective, ça pourrait très bien être aussi spectaculaire. C'est quoi, il y a un truc, ça me fait penser à un truc. J'ai lu Le Puy du Faux, c'est une enquête sur Le Puy du Fou. Okay. Alors, je crois que c'est 3 ou 4 historiens, dont Mathilde Larère, etc. Et ils ont été au Puy du Fou passer 3-4 jours et ils ont pris les notes, etc. Ils mettent dans leur bouquin tout ce qui va pas, toutes les incohérences historiques, etc., les malversations, tout ça. Et à la fin du livre, ça se termine, je veux pas spoiler, mais ils disent, mais pourquoi il y aurait pas un parc d'attractions sur les luttes sociales avec du spectacle? Et c'est pas une mauvaise idée, hein.
Ah ouais, c'est clair.
Parce qu'il y a une histoire des luttes à raconter, il y a une histoire collective à raconter qui est spectaculaire. En fait, ce qu'on aime, c'est le spectaculaire. Eh ben, l'histoire n'est pas écrite à l'avance, hein. Mais il y a des récits à écrire sur les luttes collectives, quoi.
Ouais, bah moi, à chaque fois que je découvre le truc sur... Je sais pas, j'ai fait un épisode sur Françoise de Beaune, entre guillemets, la première écoféministe. Elle a une vie complètement... sur les mouvements... handicapés aux États-Unis où ils sont accrochés, ils s'attachaient à des bus et tout,
ils se notaient en fauteuil.
Enfin, Ouais, c'est vrai.
Si vous voulez du spectacle, il y a du spectacle.
Historiquement, il s'est passé des trucs incroyables. C'est juste qu'on raconte pas ces histoires, quoi. Et d'où l'intérêt de les rappeler.
Exactement.
Mieux que ça, la médiocrité, tu dis, c'est une forme de résistance. C'est un pied de nez à l'obsession de la performance. Si la société veut que tu te tues au travail, elle peut dire non merci. Pour acheter des trucs chers qui soi-disant te rendront heureux alors que c'est faux, non merci. Que tu payes des coachings pour devenir la meilleure version de toi-même, toujours pas, non merci. je suis assez. Alors qu'en fait, bronzer au soleil, écouter les oiseaux, la flemme, voire l'ennui, ce serait même un terrain fertile qui fait peur aux capitalistes. Pourquoi ?
Parce que le capitalisme, il a besoin, c'est une énorme machine qui dévore tout ce qui passe sur sa route. Donc, c'est une machine qui a toujours besoin de productivité, d'action, de rendement, de résultats, ce genre de choses. Et donc, c'est une machine qui peut pas comprendre la flemme. D'ailleurs, on le voit en ce moment, là, ils veulent faire bosser les gens au RSA parce qu'eux, ils se disent RSA, ouais. Donc mec sur son canapé toute la journée, enfin... Bref, donc c'est une machine qui a besoin de ça. Donc la résistance à cette machine, c'est de justement ne rien faire, ne rien produire qui la ferait grossir. Quand je dis le mot produire, c'est à dessein, c'est-à-dire que produire, si tu vas passer 2 heures avec ta mamie, le capitalisme, il considérera que t'as rien produit. Moi, je considère que t'as produit un truc qui s'apparenterait là pour le coup à de la civilisation humaine. Mais le capitalisme, ça lui va pas. Il va dire que t'es un feignant parce que t'as regardé les chiffres et les lettres. Donc, mais moi, je milite pour qu'il y ait plus de... Bah, c'est ce qui se dit aussi beaucoup dans les manifs, plus de liens, évidemment. Puisque c'est juste ça. En fait, c'est notre raison d'être. C'est la raison d'être de notre espèce. C'est de créer des liens entre nous. Mais ça, le capitalisme, il aime bien, mais quand c'est dans un but de produire une bagnole ou un truc qu'il va pouvoir revendre et qui va pouvoir avoir de la plus-value. Parce qu'on est quand même sur un système dont le seul thermomètre, c'est le PIB. Lui, il considère qu'une infirmière qui soigne quelqu'un, ça coûte de l'argent. Alors que non, et ça crée un capital santé si on veut parler avec son langage. Donc il y a tout est. C'est pas que tout est fait à l'envers, c'est que tout est fait dans une seule optique. Et quand ton thermomètre c'est juste un chiffre, c'est juste de l'argent, ben forcément tu vas réfléchir à cette aune-là sur tous les domaines. Or, il y a énormément de domaines sur lesquels ça ne marche pas. Le logement, la justice, la police.
Et puis si t'arrêtes de bosser 10 heures par jour et de regarder Hanouna rentrant le soir, t'as plus le temps et l'énergie d'imaginer un autre monde, quoi.
Évidemment.
Et aussi avoir des espaces pour se rebeller et pour se reposer et pour
se rencontrer aussi.
Imaginer autre chose.
Ouais, c'est ça.
Du collectif.
Exactement.
Et tu dis, la seule manière de nous sauver en tant qu'espèce, c'est de ralentir et de mieux partager.
Oui, c'est souvent la phrase qu'on entend chez les écologues, que j'aime pas, qui disent en permanence, il faut faire des efforts. Mais je pense que c'est vraiment l'inverse, il faut arrêter de faire des efforts. Ce qui va nous sauver, c'est d'arrêter de faire des efforts. Et je trouve ça assez démobilisateur de dire, pour lutter contre le réchauffement climatique, il faudra faire des efforts. Non, c'est justement l'inverse. Si on arrêtait de produire des trucs qui servent à rien... Alors déjà, ça ferait moins de souffrance, ça ferait moins de... Mais bon, c'est un discours qui aujourd'hui est quasiment inaudible et je pense que voilà. Bon, j'ai l'habitude, comme je te dis, j'avais des parents. Ah non, je t'ai dit dans votre podcast. J'ai des parents écolos qui avaient un discours inaudible il y a 30-40 ans et qui aujourd'hui sont mainstream, tu vois. Aujourd'hui, ils disent on est écolo. Ah bah d'accord, comme tout le monde, super. Donc là, aujourd'hui, c'est un discours inaudible. De toute façon, on n'aura pas le choix. Ce discours, il sera. Et c'est pas le mien. Hein. C'est beaucoup de gens qui portent ce discours.
Bah, on l'a bien vu avec le Covid. Du Covid, c'est les taux d'émission de CO2 qu'il faudrait qu'on ait chaque année pour garder une planète habitable. Bon, clairement, c'est parce qu'on n'a pas fait grand-chose cette année-là. En tout cas, moins que d'habitude, quoi.
En fait, la réalité, tu peux rien faire contre la réalité, si tu veux. La réalité a toujours raison, par définition. C'est une tautologie. Donc, le capitalisme, par exemple, en temps de Covid, ne fonctionne pas. Quand la réalité, elle devient trop prégnante, quoi, quand la fiction ne suffit plus, on se rend bien compte que leur système, il marche pas. Voilà. Donc, est-ce qu'il faut en arriver à des Covid, à des pays entiers paralysés parce qu'il fait 60 degrés dehors, pour qu'on se rende compte que leur système ne marche pas, ou est-ce qu'on va enfin écouter les gens comme nous et anticiper un minimum, même si c'est déjà mal engagé.
Le problème, c'est l'inertie du climat, quoi, et que la réalité, elle est en train de foncer droit sur nous, mais elle n'est pas encore complètement...
Ouais, il faudra qu'ils fassent 60 dans la rue, et surtout 60 dans le bureau de leur ministère, peut-être pour qu'ils se disent...
Mais en vrai, c'est un truc qui m'a vraiment marqué cet été, de... voilà, je suis au dernier étage, avec un truc, un appart assez lumineux, j'étais vraiment en caleçon pendant 3 mois, quoi, avec un jeune bébé et tout, j'ai croisé un copain... Ah bah moi j'étais en Bretagne tout l'été, il a pas fait plus de 25. Déjà, si t'es pas marqué dans ta chair par le réchauffement climatique, et bien sûr que le gouvernement ou je sais pas le PDG de Total, il y a de la clim partout où ils vont, bah tu percutes pas, quoi. Tu percutes pas.
Ouais, je pense qu'ils percutent quand même, mais qu'ils préfèrent l'argent.
Oui.
Parce qu'ils ont les chiffres, a priori, c'est pas des. Ils vivent pas dans une grotte non plus, donc.
Oui, mais t'as être marqué par les chiffres et être marqué par y a plus de PQ en bas de chez toi ou y a plus y a plus à bouffer dans ton supermarché, quoi.
Ouais.
Alors comment est-ce qu'on accueille notre médiocrité? Parce que comme tu n'aimes pas le développement personnel, je te demandais de me coacher. moi, je suis en permanence tiraillé. Clairement, je suis parti comme toi, tu le dis, des privilégiés qui aiment leur taf. Mais je suis en permanence tiraillé entre deux envies profondes. L'une bien capitaliste de bosser deux fois plus sur le podcast pour que ça décolle. Et ralentir, profiter d'une vie simple. Honnêtement, je suis méga fier de le mec se jette des fleurs, mais de mes interviews quand je les réécoute un an après pour les rediffuser. Les retours des abonnés sont incroyables, mais ça reste un petit podcast. Et tu vois, je suis addict aux stats, aux likes dont on parlait tout à l'heure.
Ah oui, ça.
Et la fluctuation des écoutes a un gros impact sur ma joie au quotidien.
Ah oui, oui.
Pas tellement
ça
pour
la psyché.
Ouais, c'est ça. Mais en même temps, je le vois comme une reconnaissance de mon travail, même si j'ai déjà gagné, parce que je vis de ma passion.
C'est ça que j'allais dire, ouais.
Mais il y a aussi ce truc de j'ai envie que ça marche et j'ai l'impression que si je sors de la course aux écoutes, il y a plus de jeu en fait. Je m'amuse moins et il y a cet ennui du coup.
Ça t'ennuie de discuter avec des gens? Tu fais juste ça pour avoir des likes?
Il y a les
dans
deux.
Dans ce cas-là, mon conseil, c'est qu'il faut que t'arrêtes. Immédiatement.
Non, parce que si je faisais que pour les likes et les écoutes, j'aurais arrêté depuis bien longtemps. Je fais pas ça depuis 8 ans. Mais est-ce que tu aurais des conseils du coup pour les gens qui nous écoutent, justement pour mieux accueillir notre médiocrité et accepter de sortir de toutes ces courses au toujours plus, quoi?
Faut juste prendre du plaisir à faire ce que tu fais au moment où tu le fais.
Donc là, il faudrait que je prenne plaisir en discutant avec toi, c'est ça?
Exactement, c'est un gros défi. Bon là, c'est un mauvais exemple, mais en choisissant mieux des invités. Non, mais oui, il n'y a pas d'autre. C'est assez abstrait, c'est marrant, parce que c'est assez abstrait, les likes, quoi. C'est quoi, tu te fixes un objectif? Combien il t'en faudrait
pour
que tu
sois
heureux?
C'est aussi clairement avoir plus d'impact, quoi. C'est pas une question de nombre, je vais avoir l'impression de grandir et de construire un truc, quoi.
Ça peut être utile, je dis pas que c'est complètement inutile. Si tu bases ta réussite, tes critères de réussite sur le nombre de likes, je pense que tu as de grandes chances d'être toujours déçu.
Ouais.
Alors que si tu bases ta réussite sur le fait de passer du temps à discuter avec des gens et avoir l'impression d'être à ta place, quoi, c'est ça qui compte.
Ouais. Enfin, mon cerveau rationnel est là, oui, bien sûr, mais après, je choisis pas ce qui me fait me sentir mal ou bien.
Allongez-vous.
Moi, je vais pas forcément faire un gros zoom.
C'est la structure dont on parlait. C'est parce qu'on vit dans une structure où le critère de réussite, c'est le nombre de likes, le nombre d'abonnés, alors que ça, on en a rien à foutre. C'est pas un critère de qualité, en tout cas. Ça, c'est sûr. Il y a 2 millions de personnes qui regardent à nous là, donc je sais pas. Moi, c'est pareil, quand on dit, tu vois, les records, s'il y a ça à la radio, quoi, les records d'audience, on est à la première radio. Enfin, je sais pas, c'est un peu cynique de ma part, mais j'ai jamais trouvé que c'était un gage de qualité de ce qu'on fait, parce que Hanouna, il fait 2 millions.
Ouais.
Donc ça peut pas être un gage de qualité.
On va sortir de mon introspection. Mais est-ce que tu as des conseils pour les gens qui nous écoutent pour mieux accueillir notre médiocrité?
Oui, faites du collectif. Faites des trucs qui vous plaisent et surtout faites des trucs en collectif. Ça va créer de la politique. Ce qu'il faut, c'est de la politique. Mmh. Pas au sens politique-politicienne, mais au sens organisation sociale, sociétale. Le seul moyen de résister face à ce qu'on subit, c'est de se regrouper.
Le collectif.
C'est vieux, un peu comme le monde. Mais c'est la coopération. Et là, on veut nous faire croire que la vertu cardinale, c'est la compétition. Or, c'est faux. Albert Jacquard, il disait, un gagnant, c'est un fabricant de perdants. Bam! Pas mal, Albert.
Moi, j'aime trop me le rappeler, même s'il y en a qui trouvent ça glauque, mais on va tous mourir, hein, en fait. Hein.
Et oui, et a priori, on va décéder. On ne sait pas ce qu'il y a après. Possiblement, c'est une boucle temporelle. Je sais pas.
Je vais devoir refaire cette interview 58 fois.
On l'a déjà faite, possiblement, à cette interview.
Non, mais c'est vrai qu'on se convainc que notre vie a plus d'importance qu'elle n'en a réellement. Enfin, à nos yeux, elle en a énormément, mais à l'échelle de la société, même juste de la France. Enfin, en septembre, qui s'est rappelé que c'était le premier anniversaire de la mort de la reine d'Angleterre, quoi. Enfin,
on l'a oublié, c'est vrai.
Alors que c'était une des figures les plus connues du siècle,
ouais.
Que ça a fait un bruit énormissime. Et bah, en fait, non, tout le monde est déjà passé à autre chose. Et c'est pas grave, mais du coup, ça devrait être libérateur, en fait.
Mm.
Parce que quoi que tu fasses dans ta vie, dans 100 ans, allez, 300 ans, si t'as fait un truc, j'en sais rien, particulier, bah, personne ne te rappellera, quoi. Donc,
je suis d'accord avec vous, Pierrot. L'idée, c'est de s'enlever la pression. Et cette structure nous met énormément la pression, parce qu'elle nous écrase. Mm. Elle écrase les gens. La verticalité, ça écrase forcément, par structure, les gens qui sont en dessous. Ça, c'est de la physique.
Ouais, mais le tour de passe-passe, c'est d'arriver à nous faire gober que...
Pour se libérer de la pression, il faut grimper les échelons. Or, pour se libérer de la pression, il faut horizontaliser la société. Mm. Paf ! Dossier suivant.
Et que si t'es écrasé, tu le mérites, limite. Quoi.
Exactement.
Genre, t'es une merde, bah t'avais qu'à traverser la rue pour trouver du boulot.
Il y a deux systèmes argumentatifs pour justifier cette structure-là.
Ouais.
Donc, le macronisme, on va dire, hein, pour... il faut bien lui trouver un nom. En gros, c'est si t'es pauvre, si tu subis, c'est de ta faute. À toi de trouver les moyens de t'en sortir. On est tous des individus avec un libre arbitre, etc., etc., etc. Tu connais cette fable.
Mais du coup, tu invisibilises toutes les discriminations de classe, de race, de genre.
Ouais, ou alors le système argumentatif identitaire qui est si tu es pauvre et si tu es écrasé, c'est la faute des Arabes et des Noirs et des étrangers qui viennent te voler ton travail, tes ressources, etc. Donc, c'est exactement, c'est les deux mêmes... Ça soutient le même système. C'est les deux piliers qui soutiennent ce système-là. Or, la réalité, c'est que si t'es dans la merde, c'est à cause de gens comme Bernard Arnault, par exemple, qui s'accaparent tout le pognon. Pourquoi ? Et j'en terminerai là, monsieur Pierrot, dans mon analyse. L'argent est une des meilleures inventions de l'humanité. Parce que ça permet de faciliter des échanges. Si tu fais des patates et que t'as une fracture ouverte du tibia, tu vas pas payer le chirurgien en patates parce que possiblement il est allergique aux patates. Donc on a imaginé, l'être humain dans son génie, a imaginé une médiation qu'on appelle l'argent. Extraordinaire. Mmh. Ça facilite tous les échanges. L'argent, c'est un flux. Donc un flux, c'est... Sauf qu'il y a des gens qui font des barrages comme ça. Genre Bernard Arnault, qu'est-ce qu'il fait ? Il construit un petit barrage. Donc, le flux, il s'accumule. Ça s'appelle le compte bancaire de Bernard Arnault. Donc, s'il s'accumule, si quelqu'un il retient comme ça avec ses petits bras, bah, du coup, le flux, il est moins important. Voilà, la pauvreté. Donc, faut dire à Bernard, allez, tu arrêtes maintenant, t'as un problème psychiatrique, certainement, qui fait que tu veux accumuler des milliards alors que tu ne sais pas les utiliser. Mais nous, on en a besoin pour construire des hôpitaux, des écoles, payer les profs, etc., etc. Voilà. Et en plus, Bernard, tu seras plus heureux si tu fais vraiment ça. Parce que là, personne croit que t'es heureux dans ton jet à faire ou à regarder le classement Forbes comme toi, tu regardes les likes en disant « Ah mince, j'ai perdu un jeun parce que j'ai perdu 18 milliards. »
Avec Bernard Arnault.
Voilà, c'est exactement la même logique. T'as la même logique que Bernard Arnault. Donc, faut sortir de là.
Bah, pas tellement parce que...
Il est pompé au vif.
Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas d'être devant mes copains. Je suis trop content pour mes potes podcasteurs quand leur podcast grandit. Mais c'est la progression, en fait. J'ai envie de grandir et d'avancer, quoi. Mais oui.
Ne t'inquiète pas, tu grandis et t'avances déjà.
Je réinvite les mêmes invités.
Ouais, mais tu peux. T'es peut-être plus à l'aise dans ton questionnement. T'es plus. Enfin, c'est normal, on est encore heureux qu'on progresse.
Bah là, c'est sûr qu'avec toi, là, je me lâche plus parce que bah, forcément, tu m'as mis à l'aise la première fois. Donc,
ouais.
Donc là, j'ai fait « Ok, c'est bon, c'est Guigui.
» T'es à la maison.
Le corollaire.
Putain, le gars a dit corollaire. Comme ça, quoi, sans prévenir.
Ouais, c'est sûr. Ok. Je veux dire, j'ai écrit des livres, mais en même temps, t'en as écrit 8 fois plus que moi. Donc, ça marche pas du tout.
Ouais, les calipotis, c'est ça la chose.
Ouais, ils sont pas très longs, les miens non plus. Mais bon, là, on part trop sur une tangente. Ce que je voulais dire, c'est que, évidemment, voilà, on l'a dit dans l'interview justement avec Nicolas Framont sur les milliardaires sont-ils des parasites, sur fait du yoga pas la révolution, etc. Il y a un problème à toujours vouloir individualiser, ou même sur l'épisode sur la viande avec toi, juste avant, à individualiser tous les comportements et à oublier que c'est quand même un système qui nous conditionne quand même énormément. Évidemment que le but, c'est pas de dire « Ah, je suis une victime et on a aucune marge de manœuvre ». Évidemment qu'on peut se bouger, mais du coup, la solution, c'est collectif. Donc voilà, ça c'était juste la nuance que je dis à chaque fois, parce que évidemment que tu peux agir sur ta vie et que tu as un pouvoir. Maintenant, pour accepter qu'on est médiocre, faut aussi arrêter le corollaire, donc, de croire que les autres sont exceptionnels.
Ah oui.
Et si tu mets pas les autres au-dessus de toi, bah forcément, tu seras pas en dessous d'eux, quoi.
Exact. C'est ça qu'il faut faire. Parce que personne n'est vraiment exceptionnel. D'ailleurs, il suffit de rencontrer ses idoles pour se rendre compte, ils sont pas vraiment exceptionnels.
Oui, toi, tu parlais de quand t'as rencontré Donald Duck, que ouais. T'admirais, je sais pas, à Disneyland, je crois.
C'est un vrai con, Donald Duck, en fait, dans la vie. Alors, je l'aimais beaucoup dans ses BD. Oui, c'est en... bah, dès que tu te confrontes à la réalité, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, la réalité, elle t'apporte à peu près toutes les réponses. Si tu veux bien l'observer, lui accorder un tout petit peu de temps, c'est pour ça que c'est pas très compliqué. Hein, c'est pas, encore une fois, c'est pas révolutionnaire.
Après, il y a la réalité et il y a les histoires qu'on raconte par-dessus. Parce voilà. Que, effectivement, tu dis combien d'héritiers reprennent l'entreprise de leur père. Ben voilà, est-ce que Yannick Bolloré, quel mérite il a à être président de Vivendi, tu sais, ben, le fils de... du milliardaire Bolloré, quoi.
Et ils sont obligés de cette fable, parce que c'est marrant qu'elle marche encore derrière cette fable. Ils sont obligés de dire, bah non, je l'ai mérité, alors que tout le monde voit bien que non, t'es juste né au bon endroit. Mais s'ils n'avaient pas ça, ils diraient quoi? Bah, je suis juste né au bon endroit, désolé. Moi, je préférerais hein, qu'ils assument carrément, mais ça ne durerait pas longtemps. Leur hégémonie ne durerait pas, quoi.
Mmh. On est tous pressés, tout le temps. Toi, tu te bats aussi pour le droit à ralentir. Pourquoi est-ce qu'on a cette obsession à vouloir être hyper productif, à dépasser nos limites?
Parce qu'on ne nous laisse pas le choix. Encore une fois, c'est un problème de structure. Parce qu'on nous dit ça en permanence. On nous dit qu'il faut être performant, bah, le temps c'est de l'argent et tout ce genre de conneries, quoi. Mm. On nous dit qu'il faut être efficace, 24 heures sur 24. On nous met dans cette logique-là. Comme on nous met en compétition les uns avec les autres, bah, dès qu'il y en a un qui va un peu moins dormir pour taffer un peu plus et gagner plus de sous et potentiellement... passer notre N plus 1, bah nous on se dit merde, bah faut que je me mette mon réveil 2 heures avant, etc. etc. Enfin, c'est un suicide en vrai, c'est un suicide collectif ce truc.
Et il y a cette volonté du coup croissante de vouloir maîtriser le temps, voire d'aller plus vite que le temps, comme si on pouvait le rattraper, voire le dépasser. Enfin, sauf que bah, c'est le temps en fait.
En fait, on est dans une logique de sportif de haut niveau. C'est pour ça que j'en parle dans mon bouquin, mais c'est pas tellement... c'est drôle parce que j'ai fait une interview sur C'est à vous pour la promo du bouquin et je parlais des nageurs de compétition. Et, tout. Et après, ça m'a valu pas mal de mails d'insultes de la part de sportifs de haut niveau. Parce que je disais qu'ils sacrifiaient leur jeunesse à compter des carreaux dans une piscine pour nager un centième plus vite qu'un autre mec à l'autre bout du monde qui sacrifie sa jeunesse. Je trouvais ça complètement con. Et donc, il y en a plein qui m'ont envoyé des mails en disant « Tu dis n'importe quoi, c'est pas un sacrifice, machin. » Et il suffit de taper leur nom plus sacrifice dans Google et ils ont tous donné 10 interviews en disant évidemment c'est un énorme sacrifice d'être sportif de haut niveau, etc. Passer cette constatation, en vrai j'en ai rien à foutre qu'ils sacrifient leur jeunesse parce que c'est leur vie et tant pis pour eux. Mais cette logique là, elle se diffuse dans toute la société, cette logique de compétition, à l'école, dans le travail, etc. Donc même dans la police où il y a des logiques de statistiques avec un chiffre à faire, etc. Mm. Donc, c'est ça, en fait, le problème. Si ça restait cantonné à la compétition, genre à la nage, à la brasse, au crawl ou au 110 mètres, ouais, on n'est vraiment rien à foutre. Vous pouvez vous réunir tous les jours, sauter des haies en calculant qui saute les haies le plus vite. Mais vraiment, il n'y a pas de souci. Ça vous amuse.
T'imagines une compétition à 200 mètres, 4 nages avec Macron, Bolloré.
voilà, mais au moins, la qualité, enfin, l'avantage que ça a, ce genre de truc, c'est que c'est quantifiable. C'est-à-dire qu'à la fin, tu sais, le mérite est quantifiable, tu vois. Tu sais, ah bah oui, lui, il a nagé plus vite que l'autre, quoi. Alors que dans la vie, c'est jamais quantifiable. Mais bon, bref, cette logique-là, qui infuse dans toute la société, me paraît très, très néfaste. Mm. Pas qu'à moi, mais évidemment. Donc, c'est toujours la même chose, cette logique de compétition. Alors, ce qui fait que notre espèce, elle a survécu aussi longtemps, en tout cas qu'elle a survécu tout court, c'est qu'on est une espèce qui sait à merveille coopérer. Et ça, on a un petit peu oublié. Mm.
On coopère, faut dire, entre nous. On se tape aussi entre nous. Mais
ouais, oui, quand je dis on, c'est pas les on peut toujours se méfier des on, mais quand je dis on l'a oublié, c'est on nous le fait oublier, quoi.
Ouais. Je trouve que c'est ton livre le plus corrosif.
Ah ouais.
J'avais très envie de caler corrosif. Est-ce que toi, t'as l'impression de, dans ton engagement, parce que oui, c'est un engagement, t'as l'impression d'avoir évolué récemment?
Bah toujours, je pense, j'espère qu'on évolue tous les jours. Je sais pas si c'est dans le bon sens, mais mais ouais, bah je lis beaucoup, je regarde beaucoup de podcasts. Je suis assez curieux de nature, donc Et puis, encore une fois, j'aime bien écouter les gens qui m'aiment pas ou qui me font des reproches. Je trouve que c'est intéressant pour progresser. Quand c'est des critiques constructives, évidemment. Mais j'aime bien même les critiques pas constructives parce que je me dis, tiens, c'est marrant que la personne ait pris 10 minutes de sa vie pour m'insulter. Fallait vraiment que je la mette en colère. Du coup, j'aime bien comprendre d'où vient cette colère.
Et est-ce que tu as l'impression d'être plus radical dans ton engagement parce que les problèmes sont de plus en plus énormes?
Sans doute, oui. Oui, mais c'est pas une radicalisation, c'est que je pense que j'ai compris plus de trucs. Je pense que j'ai compris que c'est un vrai problème structurel et que c'est pas un problème individuel.
J'avais pas l'impression que tu mettais autant l'accent là-dessus avant.
Ouais, c'est sûrement ça que j'ai compris. Je me suis dit, c'est possiblement en interrogeant des gens tous les jours dans la rue, tu vois, des gens lambda, en faisant des micro-trottoirs, que je me suis dit, mais en fait, le problème, c'est pas le mec du coin de la rue, quoi. C'est pourquoi ce mec du coin de la rue, il va me dire une dinguerie raciste.
Ouais.
Alors qu'il vit dans un beau quartier, que les seuls noirs qu'il croise, c'est les mecs qui vident ses poubelles. Je me dis, merde, alors cette personne-là, qui est-ce qui lui raconte ces conneries? Et là, tu commences à cogiter, à te dire, ah bon, ok. Le problème, il est beaucoup plus vaste que il faut que les gens soient gentils, quoi.
Pareil, est-ce que tu as eu des retours sur des anecdotes de lecteurs sur Petit éloge de la médiocrité?
Ouais, pas mal, mais j'étais assez surpris du succès du bouquin, pour le coup. Du nombre de ventes. Ouais, je pensais pas que ça allait intéresser autant de gens.
Ah, le sujet et le titre sont trop bien.
Et il y a plein de gens qui m'ont dit ça me fait du bien. Oui, il y a beaucoup de gens qui me disent je me sens moins seul.
Ouais.
Je pensais déjà, c'est souvent ça, un bouquin qu'on aime bien, c'est quelqu'un qui arrive à mettre en forme une impression qu'on a et puis qu'on n'a pas eu le temps de poser sur le papier ou de pousser un peu plus en avant. Et donc, j'ai beaucoup de réflexions comme ça. Des gens qui me disent, je sentais bien que c'était ça que je me disais, mais j'avais jamais mis les mots dessus et là, ça me fait du bien. Je me sens moins seul. Ouais. Ah, c'est drôle, hein.
Bah ouais, tu touches.
Du collectif, encore une fois, tu vois, quand je te dis, on est moins seul, c'est de se dire. Un livre, ça, mais c'est comme un spectacle ou une chronique. Tu dis, bon, bah voilà, mon point de vue, c'est ça. Qu'est-ce que vous en pensez, quoi?
Et puis, c'est aussi mettre des mots sur des choses que tu penses, mais que tu savais même pas que tu pensais.
Exactement, ouais.
Et je trouve qu'il y a, sur les réseaux sociaux récemment, ces dernières années, il y a de plus en plus, justement, de coups de gueule contre, justement, se lever à 5h du matin, tous les trucs un peu, les douches froides, les trucs.
Ça te flingue, en fait, ça te flingue.
Ouais. Et alors que j'ai pas envie d'avoir une carrière exceptionnelle, j'ai pas envie de juste kiffer ma vie, être heureux, avoir une vie simple. Mais c'est un idéal qu'on a perdu, quoi. Enfin, on est tellement en mode, il faut absolument être extraordinaire. Et moi, je pense que ça m'infuse clairement.
Mmh.
Et en même temps, t'es là, mais tout le monde peut pas être entre guillemets extraordinaire, ou ta vie peut pas être extraordinaire.
Non, personne n'est extraordinaire, c'est ça le.
Et
personne n'est.
Et du coup, ça t'empêche de profiter des choses simples, quoi.
Ouais, c'est ça. Ouais.
Merci pour cette contribution.
Je suis complètement d'accord.
Je suis un peu fourbe parce qu'effectivement, souvent, je dis des choses et il y a pas vraiment de questions à la fin.
Oui, là tu es conscient qu'il n'y en avait pas du tout. La question, souvent, c'est quand il y a un point d'interrogation. C'est comme ça qu'on reconnaît.
Et si j'ai la voix qui monte à la fin, mais c'est pas une question, ça marche.
Ouais, et là, tu peux dire la même chose, tu fais ton petit édito, là, puis après, tu dis qu'est-ce que t'en penses. Ça donne l'impression qu'il y a une question.
Merci Guillaume pour ce double
épisode.
Ton livre Petit éloge de la médiocrité qui cartonne est donc disponible partout en librairie. Et effectivement, tu es désormais l'invité numéro 1 du podcast avec 3 interviews à ton actif.
Qui va faire mieux?
Je sais pas. Donc, je vous conseille les 2 précédents où on a beaucoup ri aussi. Celui de la semaine dernière avec sur les animaux et celui d'il y a 2 ans.
Avec ta maman.
Avec ma maman.
On embrasse.
Ciao tout le monde.
Salut.
À dimanche prochain.